Vatican News, le journal. Il est 13h.
Accord de partage du pouvoir au Soudan, une déclaration politique a été signée par les militaires et le mouvement de contestation. Des discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours, on fait le point juste après les titres. Nous reviendrons ensuite sur l'élection hier d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne avec seulement 383 voix. L'ancienne ministre allemande de la Défense doit maintenant établir ses priorités pour les 5 prochaines années. En France, les détentions illégales et le refoulement de demandeurs d'asile à la frontière avec l'Italie près de Menton inquiète de nombreuses ONG. Parmi elles, le Secours catholique, vous entendrez l'un de ses membres. La province d'Idleb en Syrie est toujours sous les bombes. L'armée syrienne et son allié russe poursuivent leur offensive pour y déloger les djihadistes. Les civils paient un lourd tribut dans ces combats. Témoignage de Vincent Gello, chef de projet à l'œuvre d'Orient.
Le journal Hélène Détombe.
Bonjour, c'est un premier pas vers un gouvernement civil tant réclamé par la population. Au Soudan, les militaires et l'opposition sont parvenus ce mercredi à un accord. Le texte entérine un partage du pouvoir entre les deux parties pendant la période de transition. Les explications de Delphine Allaire.
Le dénouement après des mois de négociations, manifestations et répressions. Les généraux au pouvoir depuis la destitution d'Omar el-Béchir en avril dernier et l'opposition civile ont paraphé une déclaration politique qui crée un conseil souverain crucial pour la transition. Cette instance va être chargée de gérer les affaires courantes pendant 3 ans, un conseil composé équitablement de 5 militaires et de 6 civils. Les militaires présideront l'alliance pendant les 21 premiers mois, les civils prendront la relève les 18 mois restants. En ce qui concerne les précisions constitutionnelle, les discussions elles reprendront dès vendredi. L'immunité absolue pour l'armée, point de friction, va être aussi prochainement étudiée. L'ébauche de cet accord avait-elle déjà été trouvée début juillet grâce à la médiation soutenue de la part de l'Union africaine et de l'Éthiopie voisine. La tension entre militaires et protestataires était particulièrement accrue depuis la brutale dispersion le 3 juin de plusieurs milliers de manifestants. Une opération qui avait fait des dizaines de morts, des centaines de blessés et provoqué un tollé international.
Delphine Allaire. L'épidémie d'Ebola gagne du terrain en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé doit se prononcer dans la journée sur la gravité de la situation. Une évaluation au lendemain du décès du premier cas enregistré à Goma, deuxième ville du pays, et carrefour des Grands Lacs. L'OMS doit indiquer si cette épidémie, qui a déjà fait près de 1700 morts depuis l'été dernier, est placée au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Après la joie et le soulagement, c'est une période ardue qui s'ouvre pour Ursula von der Leyen. Son élection hier par le Parlement à la tête de la Commission européenne n'a pas été un raz-de-marée, mais le pari est gagné. Cette alliée de longue date et plus ancienne ministre d'Angela Merkel deviendra donc la deuxième à représenter l'Allemagne à ce poste et la première femme, Antoine Benazé.
383 voix, c'est la majorité absolue dont Ursula von der Leyen avait besoin, mais avec cette courte avance d'à peine 10 voix, elle est bien loin d'engranger les 444 bulletins qu'aurait dû lui rapporter le soutien des conservateurs, des sociaux-démocrates et des centristes libéraux. En à peine 2 semaines depuis sa désignation lors du sommet européen, l'ancienne ministre allemande de la Défense a tout de même réussi l'exploit de mener une campagne victorieuse à contre-courant face à un Parlement européen qui aurait préféré un des candidats tête de liste aux élections. Ursula von der Leyen doit maintenant établir ses priorités pour les 5 ans à venir. Elle a déjà donné des pistes sur l'engagement écologique, sur la réforme de l'Union européenne, sur l'accroissement des pouvoirs du Parlement ou sur une Europe plus sociale. Mais avant ses perspectives à long terme, Ursula von der Leyen va d'abord devoir passer l'été à composer son équipe, le collège des commissaires que les 27 autres pays vont devoir lui proposer et qui devront eux aussi passer sous les fourches codines d'une audition et d'un vote au Parlement européen. Pierre Benazé, Bruxelles. RFI pour Vatican News.
La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le géant américain du commerce en ligne, Amazon. Il est soupçonné d'enfreindre les règles européennes de concurrence en utilisant les données issues de détaillants indépendants qui vendent sur son site. Les agriculteurs et éleveurs français se mobilisent contre la ratification de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. La coordination rurale a organisé aujourd'hui un rassemblement alors que le CETA doit être voté par les députés à l'Assemblée nationale. Mobilisation également contre un autre accord de libre-échange, celui unissant les 28 et les pays du Mercosur, de plus en plus critiqué. Il est à l'étude ce mercredi au Sénat. La réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G7 s'ouvre aujourd'hui à Chantilly en France. Au menu des discussions, la taxe GAFA et Libra, la monnaie virtuelle que projette de lancer Facebook. La rencontre se tient sur fond de menaces américaines après la mise en place par Paris d'une taxe nationale sur les géants du numérique. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a dit s'attendre à des discussions difficiles avec les États-Unis. Des migrants illégalement détenus et repoussés en Italie, à Menton, au sud de la France. C'est ce que dénonce un groupe d'ONG humanitaires et de défense des droits de l'homme. Elles ont recueilli 13 témoignages qu'elles ont transmis au procureur de la République de Nice, qui avait ouvert une enquête pour des faits similaires en novembre 2018. Elles ont également alerté le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des migrants. Juliette Delaplace, chargée de projet accueil et droits des étrangers au Secours catholique, qui fait partie du collectif des ONG, revient sur les violences des droits constatés.
Les violations principales des droits des personnes migrantes sont tout d'abord le non-respect du droit d'asile et donc de la possibilité de venir demander asile à la frontière. On a assisté à plusieurs reprises lors d'actions d'observation à des actions de refoulement, en fait, pures et simples, de personnes qui se présentaient à la frontière en explicitant clairement leur souhaite demander l'asile. La deuxième, c'est la non-prise en charge des personnes mineures. Il y a des personnes mineures qui se présentent à la frontière et l'intérêt supérieur de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant, devrait leur permettre de pouvoir entrer sur le territoire français, mais il n'est fait aucun cas, en fait, de leur minorité, puisqu'on voit aussi qu'à la frontière franco-italienne, des personnes mineures sont régulièrement refoulées et donc repoussées du côté italien. On observe aussi, et notamment au niveau de Menton, une détention arbitraire des personnes migrantes, c'est-à-dire que les personnes sont détenues dans des algéco durant parfois toute une nuit, des mineurs avec des majeurs, parfois des femmes avec des hommes, en dehors de tout cadre légal, en dehors à la fois des motifs légaux et en dehors des conditions légales de détention habituelles.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Le cardinal Daniel Di Nardo, président de la Conférence des évêques des États-Unis, s'insurge face à de nouvelles normes sur les migrants jugées insoutenables. Dans une lettre, il invite le président américain Donald Trump à reconsidérer la mise en place de nouvelles procédures par le département de la sécurité intérieure et de nouvelles règles visant à limiter radicalement le droit d'asile. Ces mesures, insiste-t-il, qui séparent les familles, causent des souffrances inacceptables à des milliers d'enfants et à leurs parents et créent une panique généralisée dans nos communautés. C'est aujourd'hui qu'El Chapo, le très puissant baron de la drogue, sera définitivement fixé sur son sort. Pas de suspense, Joaquim Guzman devrait être condamné à New York à la prison à vie. Un verdict qui marquera la fin d'un feuilleton de plus de 40 ans. Jugé coupable en février dernier de 10 chefs d'accusation, El Chapo, aujourd'hui âgé de 62 ans, a acheminé aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle. La guerre est loin d'être terminée en Syrie. Les combats se concentrent aujourd'hui principalement dans la province d'Idleb, où 11 civils ont été tués hier dans des raids de l'armée syrienne, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette vaste zone, située dans le nord-ouest du pays, est la dernière à échapper complètement aux forces de Bachar al-Assad. Elle est aujourd'hui majoritairement contrôlée par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Sa reprise constitue un enjeu majeur pour Damas, qui, avec son allié russe, a lancé une vaste offensive sur la région, malgré la présence de plus de 2 millions de civils pris au piège de combats qui gagnent en intensité, comme a pu le constater Vincent Gello, chef de projet à l'œuvre d'Orient pour le Liban, la Syrie et la Jordanie.
C'est une poche qui contient énormément de civils. On dit qu'il y a environ 2 millions de personnes qui seraient dans cette poche. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les combats se sont intensifiés ces derniers mois. On voit des déplacés qui arrivent dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien. Donc on a des centaines de milliers de personnes qui arrivent, qui fuient les combats, en fait, tout simplement. Maintenant, il y a des points d'accrochage sur les zones de ligne de front. Là, je m'étais rendu dans des villages chrétiens qui s'appellent Mkhardé et Skelbiyé, qui sont des villages que l'œuvre d'Orient soutient et qui sont des villages qui se trouvent exactement sur la ligne de front. Donc c'est des zones où il y a des échanges de tirs, il y a des personnes qui décèdent, il y a des bâtiments qui sont détruits. Ça génère aussi de la pauvreté, tout ça. Des déplacements, c'est des situations assez compliquées à gérer. Les combats sont durs, les populations civiles sont les premières à trinquer.
Vincent Gello, chef de projet à l'œuvre d'Orient pour le Liban, la Syrie et la Jordanie, interrogé par Manuela Figi. Un entretien retrouvé à l'adresse vaticannews.va. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. On se retrouve à 18h. Je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.